Comme vous le savez, chez Pixel Adventureur, à l'époque, nous avions un podcast sous le nom de Vitapéro. Alors, ne faisant plus de podcast, je me suis dit pourquoi pas reprendre des reviews en podcast. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de The Caligula Effect 2, que j'ai pu tester sur Switch, grâce à Koch Media, qui m'a envoyé généreusement une copie pour tester. Ils m'ont simplement envoyé la copie et je n'ai pas eu d'autres informations ou d'autres indications sur comment tester le jeu ou quoi que ce soit. Donc sachez que je suis entièrement libre de dire ce que je veux à propos de ce jeu. Caligula 2 Effect. Il reprend en fait, pour moi, Caligula Overdose plus que The Caligula Effect, le premier du nom qui était sorti sur PS Vita. Celui sur PS Vita avait beaucoup plu à des gens, dont moi d'ailleurs, pour son effet au niveau du tour par tour. Principalement, il avait changé cet effet de tour par tour qui est le personnage 1 tape après, tape, le personnage 2 tape, le monstre 1 tape, et ainsi de suite, ainsi de suite. Caligula, en fait, a créé un mode où en fait c'est une timeline qui se diffuse, qui se fait en fait comme le temps, et vous pouvez voir dedans des prédictions en fait de ce qu'il va se passer et de quel effet vous allez faire. Et donc par exemple, votre personnage 1 va contrer un monstre, l'envoyer en l'air, le personnage 2 va le renvoyer un peu plus haut, le 3 va faire une attaque aérienne, et le 4ème, quand il sera retombé au sol, va le finir au sol. Tout ça dans un mouvement extrêmement fluide, etc. Le premier étant fait par un petit studio, Furyu, japonais. Il était à la fois brouillon, on va dire très très brouillon, dans tout ce qui était, on va dire, le menu. Et puis le jeu en soi était un petit peu brouillon. Par contre, l'histoire était vraiment prenante. L'histoire était que c'est des gens qui sont dans une réalité virtuelle par une virtual doll, en fait, qui les a mis là. On sait pas trop au début pourquoi ils sont là, mais un va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche et en fait se rend compte qu'il est dans un monde virtuel. Tout le but du jeu et tout le dénouement du jeu est en fait de sortir de cette réalité virtuelle avec une équipe que vous formez avec d'autres gens qui se rendent compte qu'ils souffrent, enfin qu'ils ont le même problème, c'est-à-dire que bah, ils se sont rendus compte que là où ils sont, c'est une réalité virtuelle, et qu'ils veulent en sortir pour retourner à la vie réelle. La fin de Caligula 2, Caligula pardon 1, le premier, est juste magnifique. On se rend compte que tous les personnages n'ont pas le même âge, on se rend compte que certains n'ont pas le même sexe que ce qui était dit, etc. C'était vraiment un bon jeu, de A à Z. Ils avaient également essayé de mettre des espèces de sous-quêtes avec des liens entre les gens, etc. Parce que c'était, ça se passait dans un lycée, c'est un JRPG, hein. Donc beaucoup comme Persona se passe dans un lycée ou dans le milieu scolaire, etc. Et en fait, ce JRPG-là, Caligula, donc, avait mis un système en fait où chaque étudiant connaissait un autre étudiant et vous aviez des quêtes à faire qui étaient souvent très bidons, d'aller parler à un tel ou savoir ce qu'un tel aimait ou amener tel objet à un tel, etc. Mais qui reliait chaque étudiant et qui en fait vous permettait de débloquer des quêtes chez d'autres, hein. Débloquer la quête de chez Emma qui donnait accès à la quête de Alice, qui donnait la quête de Jean parce qu'ils se connaissaient et que ça faisait un lien. C'était extrêmement brouillon. C'était bien, mais brouillon. Quasi incompréhensible si vous ne parliez pas anglais très très couramment. Dans Caligula 2, donc là je vous parlais exclusivement de Caligula 2, vous reprenez le même scénario, c'est-à-dire que vous avez une virtual doll nommée Regrets qui a créé un monde qui s'appelait Rideau, pareil pour sauver les gens de leurs regrets et qui les emprisonne dans une simulation. Elle est aidée de musiciens, qu'on appelle les Obligados, qui, grâce à leur musique, en fait, fortifient Rideau, donc l'univers, et ils charment, en fait, les gens pour qu'ils continuent à penser que c'est la réalité. C'est eux les antagonistes que vous allez devoir battre, et en fait, chaque chapitre, c'est un nouveau boss. Principalement, le même système que dans le premier jeu. La seule différence, là, c'est que, ben, en fait, la Virtual Doll, c'en est une différente qui viendra vous aider. C'est en fait Y, on va appeler ça Y, qui est en fait la fille de Micro, qui était la méchante, qui n'était pas vraiment une méchante, dans le premier jeu. Là, elle vient aider contre Y, en fait, tout simplement, et en fait, elle va aléatoirement, donc ça sera le joueur, réveiller un étudiant du lycée, en fait, et lui faire comprendre qu'il est dans une réalité virtuelle. D'autres étudiants vont avoir aussi des rêves étranges, etc., et avec l'aide de X, ils vont pouvoir... J'ai dit X ou Y ? Pardon. Si j'ai dit Y, excusez-moi, c'est X. Et en fait, X va aider à faire s'éveiller ces autres étudiants. Et en fait, ensemble, ils vont reformer le club, le Go Home Club, donc le club de retour à la maison. Donc le but, en fait, c'est de retourner à la réalité exactement comme le premier jeu. Et pour moi, c'est ça, déjà, le premier souci du jeu, c'est que vous devez retourner à la réalité comme le premier jeu. On apprend un peu plus de ce qui s'est passé entre le premier Caligula 1 et Caligula 2, que par exemple les gens qui étaient retournés à la réalité souffraient de malnutrition, que certains étaient dans un coma, enfin qu'ils étaient dans un coma profond, et que du coup ils avaient beaucoup de problèmes de santé, une réadaptation qui était longue, etc. Donc c'est bien, parce que ça fait une transition, mais malheureusement, en fait, ça va pas assez loin. L'histoire en elle-même ne va pas assez loin pour moi. On part d'un postulat de base, et en fait, on ne fait que le copier-coller avec un nouveau système. Ce qui m'a choqué également, mais ça vraiment pas en bien, alors j'ai testé sur Switch en mode portable et docké, donc sur TV, c'est que le jeu est plus moche, donc le 2, que la version Vita. Pour quelle raison ? Aucune. Je ne comprends pas pourquoi, en passant sur un Unreal Engine en 2021, donc moi je pense que le jeu a été fait au Japon en 2020, mais en, on va dire 2021, on arrive à un jeu qui n'est pas plus beau qu'une version PS Vita sortie en 2017. La version Vita, j'acceptais que les personnages aient un peu ces tronches figées, etc., qu'il n'y ait pas trop d'animation dans les déplacements, que ça soit un peu, on va dire, rigide. Mais qui est quand même des décors qui étaient bien faits, etc. Il y avait pas mal d'écrans, par exemple les hubs étaient des écrans fixes, etc. Qui donnaient accès à d'autres pièces. Là, dans Caligula 2, on est plus dans un, on va dire, un milieu instancié avec des grandes pièces, etc. Qui, pareil, alors je pense que ça c'est une envie des créateurs, fait extrêmement bizarre parce que certaines pièces sont trop grandes. Et je pense que c'est pour mettre mal à l'aise le joueur en disant « Regarde, rends-toi compte dans quoi vivent les gens et tu vas te rendre compte que c'est pas normal que par exemple un lycée fait 3 étages de haut et qu'il ait 5 cours différentes et qu'il ait 40 salles de classe ouvertes avec des verrières, des machins. Très très bizarre. » Mais le jeu, en fait, le jeu est, je trouve, pas ouf. Il pourrait être mieux. Ou alors, c'est un parti pris auquel j'adhère pas. Je peux comprendre que ce soit un parti pris, mais moi, j'y adhère pas trop. Mais, n'empêche, le jeu est agréable à jouer. Hein. Ça, c'est pas laid à un point. Je trouve juste dommage qu'ils aient pas affiné un petit peu. Au niveau des personnages, j'ai retrouvé vraiment beaucoup de similitudes par rapport au premier jeu. Les card designs sont pas très différents du premier jeu. On voit que c'est la même inspiration, qu'ils ont pas essayé de s'éloigner. Ça me fait un peu penser à l'équipe B, en fait, principalement. Les armes non plus, ou les personnages qui manient des armes, il n'y a pas trop de variations. Il y a toujours le premier personnage dans Caligula 1 avait des pistolets. Là aussi, vous avez un personnage avec des pistolets. Vous avez une nana avec un katana, une avec une lance. La seule qui est un peu originale, on va dire, c'est celle qui a un cerceau. Un gars avec une étoile du matin, donc c'est une boule avec des pics. Vous avez un espèce de buffer personnage buffer qui a un bâton de sécurité japonaise, que je trouve ça plutôt intéressant. Mais en fait, on va dire 90% des personnages sont bof. Je trouve juste bof. De plus, pour revenir en fait un peu sur le scénario et les personnages, ben en fait, contrairement au premier opus où ils étaient très humains, on va dire, et qu'ils avaient des histoires, avec dedans des sous-histoires, et qui est vraiment raconté une vie d'un personnage, et on pouvait s'y accrocher, dans Caligula 2, j'ai beaucoup plus de mal, et en fait, ils ont pas une psyché, ou ils ont pas une histoire extrêmement passionnante. Et le jeu en souffre, en fait. Par exemple, il y a une idole dans le groupe, bah, son seul problème, c'était que la vie d'idole était trop dure. C'est tout. C'est un post-it. Le personnage est un post-it. Pareil, un des protagonistes adverses qui, dans Caligula 1, avait souvent une histoire plus profonde derrière, pourquoi ils étaient méchants, etc. Ou pourquoi ils étaient là. Dans celui-là, bah, par exemple, vous avez c'est juste un artiste raté. Voilà. C'est juste un artiste raté. Alors, par contre, contrairement au 1, alors là, j'étais étonné. Les petites histoires entre les élèves, même si on va dire 80% sont inutiles, c'est juste t'as l'objet un tel, tu lui donnes, et ben elle est contente, elle te donne des buffs pour ton personnage. Donc ça, je trouve, ok, tu te balades, tu les donnes, c'est très sympa. Mais il y a quand même des petites histoires à l'intérieur de ce bloubi-boulga de personnages qui ressortent avec en fait des grands groupes qu'ils ont d'ailleurs highlight sur une espèce de mind map qu'ils ont fait, qui était déjà présente dans le premier jeu, mais là elle est beaucoup mieux faite. Puis on peut voir également quelles sont les interactions, quels sont les objets que vous avez besoin, etc. plus facilement. Là, par exemple, je vais en illustrer une très rapide qui est du début de jeu, où en fait vous avez un professeur qui est accusé par une élève et qui fait passer une rumeur comme quoi en fait ce professeur l'aurait tripoté pendant un examen physique, comme ils peuvent avoir au Japon, où je pense qu'ils prennent le poids, la taille, etc. Et en fait, ce professeur dit non, moi je l'ai pas tripoté, etc. Mais essayez de vous renseigner d'où vient cette rumeur, etc. Donc vous allez discuter avec tout plein d'autres élèves qui vont vous dire bah non, en fait on n'a rien remarqué, et puis bah elle paraissait pas différente, etc. Vous allez investiguer de plus en plus, jusqu'à découvrir en fait que c'est sa meilleure amie qui lui a dit de dire ça pour que elle puisse se rapprocher du professeur et que en fait elle puisse faire chanter le professeur pour que elle. Donc, pas la fille qui a dit de dire ça à sa meilleure amie. Je sais pas si c'est très clair. Pas celle qui a balancé la rumeur, en fait. Celle qui veut faire chanter le professeur pour pouvoir sortir avec parce qu'elle est amoureuse, en fait. Et c'est génial. C'est juste, tout est imbriqué. Vous voyez ça à peu près sur 2 chapitres. Et vous avez cette histoire en fond d'une autre histoire, avec d'autres. Et ça, c'est vraiment bien. C'est presque dommage que ça soit pas parmi... Parce que ce soit un des antagonistes, presque, qui fasse chanter un PNJ à l'intérieur, ou qui fasse chanter un des joueurs en disant nanana, et qui le reproche sur les autres. Enfin, on pourrait aller plus loin, et vraiment faire tout un chapitre là-dessus. Mais non, en fait, vous avez juste des personnages... Protagonistes et des antagonistes qui sont très lisses, je trouve, très très lisses. Après, pour tout ce qui est du système de combat, alors le système de combat est toujours aussi plaisant, voire il a été amélioré, je trouve qu'il est vraiment plus lisible. Les contres, qu'ils soient aériens, physiques, quand vous tapez au sol, quand vous tapez en l'air, il y a des icônes maintenant, c'est beaucoup plus... c'est mieux expliqué. Cependant, en fait, il y a une espèce d'effet cinématique à la fin des combats, ou pendant les combats, où les ennemis retombent au sol, et en fait, il faut qu'ils aient touché le sol pour finir le combat. C'est un peu long. C'est vraiment long. Au bout d'un moment, je veux dire, là, je suis à plus de 20 heures de jeu, j'en ai marre. Vraiment, j'en ai ras-le-bol de voir cet effet-là. Il y a aussi beaucoup trop de combats. malheureusement. Quand vous allez circuler dans un donjon, il va falloir flinguer tous les monstres. Parce que, un, ils se ruent vers vous, tels les gamins dans lesquels vous passiez quand vous jouez à votre Pokémon rouge ou bleu à l'époque. Ils vous voient à 300 mètres, ils vous foncent dessus. Et il va falloir tous les faire. Alors je pense que c'est dans un système aussi pour faire que quand vous arrivez au boss, vous arriviez à le battre. Mais c'est un peu trop rébarbatif. Puis en plus, si vous changez d'étage plusieurs fois, ils réapparaissent. Donc je trouve ça naze. À la rigueur, j'aurais bien accepté de le faire une fois, par exemple. Je sais pas, sur l'étage 1, vous avez 10 monstres. Vous allez sur l'étage 2 et vous redescendez au 1. Après, ben, les 10 monstres que vous avez, ou tous les monstres que vous avez battus, ils réapparaissent pas. Et à la rigueur, mettre une option de si je veux farmer, faites réapparaître les monstres à chaque fois. Y a aussi un petit souci dans l'équilibrage, il y a des boss qui sont super durs. Y en avait un où j'ai dû recommencer 3 fois avant d'arriver à comprendre comment le battre. Et il y en a d'autres, ben, il m'a même pas touché. Il est resté en l'air, j'ai réussi à le projeter en l'air. Et du début à la fin, ben, il est resté en l'air. Il n'a jamais touché le sol, à part quand il était mort. Et j'ai réussi le boss, je ne connais même pas ses attaques, ce boss-là. Donc il y a un petit peu un léger souci d'équilibrage que je trouvais qui était un peu moins présent dans le premier. Mais d'un autre côté, dans le premier c'était très brouillon, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui se plaignaient qu'ils n'arrivaient pas du tout à comprendre comment fonctionnait le jeu et d'autres qui trouvaient que c'était un peu trop facile. Donc je pense que c'est aussi au niveau du mode de combat et comme j'avais déjà bien compris le premier jeu, je pense que pour moi c'est plus facile. Et que je trouve que, par exemple, mes personnages sont, on va dire, maintenant ils sont niveau 30, j'arrive à battre des niveaux 50 sans trop de difficultés. J'ai plus tendance à laisser le système de combat en mode auto, à part pour mon personnage, et que tout soit automatisé. D'ailleurs, nous, donc, à jouer aussi, il y a un mode auto avec différents modes. Le mode libre, agressif, défensif, soin. Donc ça c'est vraiment agréable parce que vous pouvez retourner dans des zones précédentes pour finir les sous-quêtes secondaires. Je pense surtout pour les gens qui vont vouloir faire le platine sur PS4 ou PS5. Ils vont devoir faire toutes les quêtes secondaires comme c'était le cas sur le premier. Et du coup en fait vous avez des monstres qui souvent ils ont quelques niveaux de moins, donc c'est plutôt agréable de faire ça en mode automatique. Aussi, ça va vous permettre de retrouver, par exemple, des objets que vous n'avez pas pu récupérer, etc. Donc c'est plutôt bien. Bah voilà, à peu près pour tout ce qui était les grands points. J'ai pas parlé de la musique, pardon. Caligula, comme le 2, en fait, comme le 1, il a une super bande son. Donc c'est fait vraiment par des styles Vocaloid, Idol, etc., la japonaise. Je suis un peu moins fan de cette OST-là, mais c'est mes goûts personnels. Qui est un peu plus pop, l'autre était un peu plus rock, je trouvais, c'était un peu plus sympa. Mais du coup, je suis un peu moins fan de celle-là. Mais malgré tout, je dirais que c'est quand même de la très très bonne musique qu'ils ont mis dedans. J'ai téléchargé l'album pour écouter l'intégralité vraiment de manière posée avec un bon casque, pas sur la Switch en mode portable ou sur la télé. Je vais vraiment écouter ça avec un casque studio pour voir ce que ça donne. Mais c'est vraiment de la qualité au niveau de l'OST, ça il faut l'admettre, c'est pas des musiques libres de droit, c'est pas des musiques à la con qu'on trouve dans tous les jeux, c'est vraiment des musiques uniques au style. Pour finir de façon très rapide, The Caligula 2, je trouve que dans l'ensemble, en dehors du côté graphique où je suis un peu déçu, du système de combat que je trouve qui est amélioré, mais avec ce petit effet ralenti en fin de combat que je trouve qui fait perdre du temps bêtement et un peu trop de combat. Le jeu en lui-même est très bien. Je dirais que c'est pas de la haute volée en JRPG, c'est un JRPG très sympa. Je pense pas que ça sera une... Je vois pas ça comme une perle comme le 1. Disons que le 1, je trouve, c'est vraiment une perle. C'est vraiment un jeu qui aurait dû avoir plus d'impact. Et en fait, avec ce 2, c'est un peu comme un... Le 1 avait fait un bel essai, et en fait, je m'attendais à ce que là, il soit transformé, en fait. Que ça soit quelque chose de magnifique, que ça se transforme comme une série, comme un Persona, en fait. Que ça, vraiment, ça devienne un Persona. Et que ça devienne une série en soi, avec son mode de combat qui change, etc. Quelque chose d'exceptionnel. En plus, je vous l'ai pas dit, mais il y a quand même Tadashi Satomi, qui est un scénariste de Persona, et Takuya Yamanaka, qui est à la réalisation. Et que c'est pas des blaireaux, pour ceux qui connaissent le game, quoi. Enfin, façon de parler, le game des JRPG. C'est pas deux nazes, c'est quand même des mecs qui en imposent, qui ont fait des grands jeux. Donc je m'attendais vraiment à ce que ça soit mieux. Alors, graphiquement, je m'en fous un petit peu. J'ai déjà joué à des jeux très moches, mais qui racontaient plein de choses. Il y a des jeux indés qui sont extrêmement moches, ou qui sont pas très beaux, on va dire. Mais en fait, ils se rattrapent par leur gameplay et par leur histoire. Là, le gameplay est meilleur par rapport au premier. Ok. Mais l'histoire n'est pas meilleure par rapport au premier. Et graphiquement, on va dire, allez, c'est pareil. Je m'attendrais un petit peu mieux, mais je trouve que c'est pareil. Je trouve pas que c'est éblouissant. Je trouve que c'est pas mal, mais c'est pas éblouissant. Donc je suis un peu mitigé. J'irai pas jusqu'à ne pas vous le recommander, parce que je trouve que c'est quand même un jeu qui va vous permettre de... qui aborde déjà des sujets qu'on aborde rarement dans les jeux vidéo, c'est-à-dire la réalité virtuelle, dans le sens, qu'est-ce qui s'y passerait si on y vivait, un mode de combat, lui, totalement nouveau, c'est vraiment eux qui l'ont mis en place, et aussi, j'aime bien en fait tout ce principe de genre interconnecté, et d'essayer de l'appliquer à moi et de voir jusqu'où je remonte au niveau de mes amis, de mes connaissances, etc. Ça fait un peu comme une... comme ce que doit être Facebook, en fait, une espèce de grande map de gens connectés entre eux. Donc, je trouve ça pas mal. Alors, pour la Switch, comme je viens d'acheter une Switch, malheureusement, je ne suis pas un gros joueur de Switch, j'ai pris une Switch OLED, donc on va dire que ça va être mon premier gros RPG dessus. Je dirais que c'est un 7. 6,5, 7. C'est-à-dire que ça raconte quelque chose. Pour des gens, ça sera suffisant. C'est-à-dire qu'ils veulent pas s'embêter à avoir des histoires trop longues. Pour un fan de JRPG profond, ça risque d'être un peu léger. Mais pour un joueur... je dirais que pour un joueur lambda, ça peut être un bon 8. Quand même. Parce que si vous n'êtes pas un gros fan des Persona, si vous n'êtes pas un gros fan de lore, de personnages développés, qui ont des interactions avec d'autres personnages, où il faut vraiment presque prendre des notes pour se rappeler de qui a fait quoi, etc. Ça peut être une très bonne initiation au genre, en fait. Ça peut être une très bonne initiation au genre du JRPG en 3D. Et du coup, dans ce cas-là, pour un jeune, on va dire, jeune joueur dans l'âme, hein, pas jeune joueur en âge, jeune joueur dans l'âme, quelqu'un qui vient de commencer, ouais, je pense que je recommanderais ce jeu, en disant si t'as la possibilité, fais le 1 et le 2 à la suite, parce qu'ils s'embriquent bien, en fait, et j'attends presque qu'ils fassent comme The Caligula Effect sur Vita, en fait, avait eu une version overdose sur PS4, Switch et PC qui était améliorée. Est-ce qu'on aura une overdose pour le 2? Voilà, donc avec qui était grandement amélioré. Franchement, en fait, tous les défauts du premier opus avaient été enlevés. Je trouvais simplement que le mode de combat avait perdu de son âme, en le rendant un petit peu plus obscur, en fait, dans le overdose. Parce que moi, je l'avais compris, en fait, dans le effect. Donc, en fait, quand je suis passé dans le overdose, j'étais genre, mais en fait, c'est pas à ce que j'ai joué. Et c'est complètement différent. Et du coup, bah, y a eu un mouvement de rejet, en fait, tout simplement. Donc j'ai pas fait le overdose, même si j'ai pu le tester. Il m'a pas plu. Et j'étais vraiment, bah, je vais pas descendre le overdose, alors que c'est exactement le même effet que le Caligula premier du nom sur Vita, et qu'il est juste amélioré graphiquement, et avec plus de personnages, et plus de contenu. Donc voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. En fait, je pensais pas faire aussi long, ça fait un peu plus de 25 minutes. Je referai d'autres podcasts très rapides de review, et je les mettrai en plus de la review écrite. Si ça vous intéresse, je continue. Je pense que je vais en faire 5. Et au bout des 5, je regarderai s'il y a des gens qui les écoutent. Si ça vous intéresse pas, j'arrêterai. Et puis, j'en parlerai juste à mes potes. Voilà. Sur ce, bonne journée, bonne soirée, bon appétit, bonne nuit. Et surtout, bon jeu. Ciao.